Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Abbas Ouédraogo.
Au sommaire, le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a assisté ce mardi aux côtés de ses pairs africains à l'investiture du nouveau président de la République du Ghana, John Dramani Mahama. Vague de réactions sur les propos d'Emmanuel Macron qui fustige certains dirigeants concernant le retrait annoncé des troupes françaises de plusieurs pays d'Afrique. Vous les entendrez dans ce journal. En Côte d'Ivoire, un navire chargé de nitrate d'ammonium autorisé à Abidjan. Et puis le M23 progresse en République démocratique du Congo. Plus de 100 000 personnes déplacées dans l'Est en une semaine selon l'ONU. Le développement des titres dans un instant. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal sur Radio Oméga. Le président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a assisté ce mardi, aux côtés de ses pairs africains, à l'investiture du nouveau président de la République du Ghana, John Dramani Mahama. Le nouveau président ghanéen entame ainsi officiellement son deuxième mandat à la tête du Ghana. Membre du Congrès démocratique national, le nouveau président succède à Nana Akufo-Addo, du nouveau parti patriotique qui a fait deux mandats consécutifs à la tête du Ghana. Le président John Dramani Mahama a dirigé le Ghana de 2012 à 2017. Cette cérémonie d'investiture a connu également la prestation de serment de la vice-présidente du Ghana, professeur Nana Jeanne Opoku Aguiemang. Au cours de son séjour sur le sol ghanéen, le président Ibrahim Traoré a rencontré ses compatriotes résidents au Ghana, dont le nombre est estimé à plus de 3 millions de Burkinabés, ajoute le communiqué de la présidence du FASO. Ce voyage officiel est le premier du président du FASO en dehors de l'espace de l'Alliance des États du Sahel depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022. Le président français Emmanuel Macron, dans le cadre de la traditionnelle conférence des ambassadeurs organisée lundi 6 janvier à Paris, est revenu sur la rupture de plusieurs partenariats militaires avec la France. Selon lui, des négociations ont eu lieu concernant le retrait annoncé des troupes françaises de plusieurs pays d'Afrique. Elle fustige, je cite, « l'ingratitude de certains dirigeants du continent qui ne seraient plus à la tête de pays souverains si l'armée française ne s'y était pas déployée ». Selon lui, l'armée française n'a pas été remerciée, mais elle a tout simplement choisi de se réorganiser. Les pays africains ont oublié de dire « merci à la France » pour son engagement à la lutte contre le terrorisme. Ces propos du président français sont mal perçus par l'observateur politique Ismaël Diallo. Selon lui, c'est la France qui doit son salut à l'Afrique. Il a été joint par Denis Zungrana.
Il a cité le nôtre, le Burkina Faso. Mais quelle injure ! Et la France, est-ce qu'elle a combattu le terrorisme ? Elle a fait semblant de combattre le terrorisme. En réalité, elle a joué un double jeu. Elle n'a pas combattu le terrorisme. Elle nous a enfoncés dans l'attentisme, dans la désillusion. Nous n'avons pas combattu le terrorisme et nous n'avons pas été mieux les années après 2023. Alors, la France est partie. C'est très bien. Nous verrons à présent si nous sommes capables nous-mêmes de combattre les terroristes, oui ou non. Et elle pourra se vanter si nos États disparaissent. Mais ces États ne vont pas disparaître. Parce que le terrorisme ne peut pas les faire disparaître. Ça peut paraître être des professeurs de foi, une profession de foi, mais on verra bien. Quant à lui, le président de la France, il se rappelle que si nous, nous n'avions pas été là en 1944, 43, 44, 45, et avant la Première Guerre mondiale, peut-être que la France aurait été aujourd'hui une succursale soviétique, aurait parlé russe, une succursale allemande, aurait parlé allemand, ou anglaise, aurait parlé anglais.
Autre réaction, c'est celle de l'enseignant-chercheur Koudbi Kabore qui regrette que le président français n'ait pas situé la responsabilité de son pays dans la situation actuelle des pays sahéliens. Lui aussi a été joint par Denis Zungrana.
Si je dois dire quelque chose sur le discours du président français, je dirais qu'il faut le prendre dans son contexte. C'est le discours d'un président qui est acculé, d'un président qui est en difficulté et un président qui s'adresse à ses ambassadeurs. Et je trouve qu'en contexte français, c'est un discours qu'il faut prendre comme ça, dans ce sens. Voilà. Et seulement, c'est regrettable qu'ils ne reconnaissent pas lui-même sa propre responsabilité dans ce qu'il décrit. Parce que quand même, si ça se limitait à la situation du départ de la présence française en Afrique de l'Ouest précisément, si ça se limitait au pays de l'AES, ça, on pouvait dire que bon, il y a certainement qu'on cherche trop. Et vous voyez que ça s'étale. Et de ce point de vue, il y a quand même une gouvernance française qui est à déclier, ce qui ne reconnaît pas. Et je pense qu'il aurait fallu qu'il reconnaisse humblement sa part de responsabilité. Mais il ne faut pas aussi rejeter la plupart. Tout ce qu'il dit n'est pas faux, n'est pas mauvais. Si on prend par exemple l'intervention française au Mali, 2012 qu'en 2013, quand même, ça a été applaudi. C'est à quel moment ça n'a plus été applaudi? C'est justement quand il y a eu ce faux départ, justement, qui a consisté à stopper l'armée malienne de rentrer à Kidal. Donc, il y a une politique de deux poids, deux mesures. Et c'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à mal tourner. Sinon, si l'objectif, effectivement, était resté de libérer des territoires occupés, peut-être que l'armée française et la France seraient toujours présentes dans ce pays.
Autre réaction, celle du Tchad et du Sénégal. Dans la soirée de lundi, le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, dont le pays a annoncé ces dernières semaines la fin de toute présence militaire française et étrangère sur son sol en 2025, a ainsi contesté que le retrait annoncé des soldats français du Sénégal aurait donné lieu à des négociations, comme l'affirme le président français. Qualifiant sur le réseau social X cette affirmation de totalement erronée, il y précise qu'aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour au sujet du départ annoncé des bases françaises et que cette décision prise par le Sénégal découlait de sa seule volonté en tant que pays libre, indépendant et souverain. Grand pourfendeur de la présence française dans son pays avant son accession au pouvoir l'an dernier, Ousmane Sonko a aussi apporté un contredit cinglant aux déclarations d'Emmanuel Macron à propos d'une ingratitude de certains dirigeants africains qui ne seraient plus à la tête de pays souverains sans le déploiement de l'armée française. La France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye avec des conséquences désastreuses. Noté sur la stabilité et la sécurité du Sahel, lui a répliqué le chef du gouvernement sénégalais. Et puis un peu plus tôt dans la journée, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamal, a quant à lui déploré les propos du président français dans un communiqué lu à la télévision nationale. Je cite « Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa vive préoccupation suite aux propos tenus récemment par le président de la République française, Emmanuel Macron, qui reflète une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains », y déclare-t-il ainsi, avant de demander aux dirigeants français d'apprendre à respecter le peuple africain et à reconnaître la valeur de ses sacrifices et de rappeler le rôle déterminant joué par l'Afrique et par le Tchad dans la libération de la France lors des deux guerres mondiales. Leurs sacrifices immenses ont été minimisés sans qu'un remerciement digne de ce nom n'ait été exprimé à Sen Abderrahmane Koulamala. Dans son communiqué, le chef de la diplomatie tchadienne estime également qu'en 60 ans de présence au Tchad, la contribution française a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres, sans véritable impact durable pour le développement du peuple tchadien, avant de conclure en appelant Emmanuel Macron à se concentrer sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français. Et nous en venons au projet de loi adopté la semaine dernière par les députés sur l'amnistie et les conditions d'octroi de la grâce amnistiante aux auteurs du coup d'État de septembre 2015. À Bobo Dioulasso, la population soutient les autorités dans la prise de cette décision. C'est du moins ce qui ressort de ce micro-trottoir réalisé par Diane Sadou.
Bon, moi, c'est Sanou Roméo. Bon, pour moi, cette nouvelle est la bienvenue. Je suppose que ce sont les fils du pays. Les sorties aussi vont contribuer aussi à lutter aussi contre l'insécurité que nous vivons depuis plusieurs années.
Monsieur Jean-Pierre Kam, je crois que c'est nécessaire. Ils ont presque pigé leur peine. Et s'ils ont regretté l'acte qu'ils ont fait, et je crois que nous aussi, on doit accepter le pardon.
Kafando Jekonias, je pense que s'il est possible que les différents détenus, concernant le putsch, ils peuvent servir en tout cas à la nation par leurs compétences, par leur savoir, leur technicité. Il n'y a pas de problème. on peut leur faire cette grâce-là.
Moi, je suis Monsieur Sanou. Si vraiment leur libération, c'est une bonne cause, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Certains ont purgé leur peine. S'ils ont purgé leur peine, pourquoi les garder? C'est tout à fait raisonnable de les libérer. S'ils n'ont pas déjà purgé leur peine, pourquoi les libérer? Ils n'ont qu'à continuer. Maintenant, ceux qui contribuent pour la défense de la patrie en tant que citoyens aussi, je trouve qu'il n'y a pas de problème, on peut les libérer.
Janda Abdulrachid Abobo du Lasso. Bon, disons que moi, de mon point de vue, vu que ces hommes ils ont été jugés, je me dis que c'est convenable que ces personnes-là ils purgent en fait leur peine, voilà, comme ce que la loi exige. Mais cependant, si le gouvernement juge que c'est un bon moyen de les gracier afin de pouvoir mener la lutte contre le terrorisme, bon, pourquoi pas ne pas essayer.
Hors de chez nous, les autorités ivoiriennes ont tranché. Le navire Zim Rida, longtemps bloqué hors des eaux ivoiriennes, n'est pas une bombe flottante. Ce mardi, il a finalement accosté au port d'Abidjan avec à son bord 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Les autorités assurent que cette cargaison utilisée pour les engrais et l'industrie minière ne représente aucun danger pour les installations portuaires ni pour les populations. Tout serait en règle, autorisation incluse. Ce mardi matin, une visite de presse a été organisée à bord pour rassurer les journalistes, mais cette arrivée fait grincer des dents. Le nitrate d'ammonium reste associé à des drames comme l'explosion du port de Beyrouth en 2020. Les récents combats dans certaines parties de l'Est de la République démocratique du Congo ont déplacé plus de 100 000 personnes la semaine dernière, a estimé mardi le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Entre le 1er et le 3 janvier 2025, d'intenses affrontements entre l'armée congolaise et un groupe armé non étatique à Massi, au centre, dans la province du Nord Kivu, ont déplacé environ 102 000 personnes, selon les informations locales, a avancé l'OCHA. La rébellion du M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, qui ne cesse de gagner du terrain, a pris samedi le contrôle de Masisi, une localité clé dans l'est de la RDC. Masisi, qui compte 40 000 habitants, est située à environ 80 km au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Un calme relatif a été constaté dimanche dans cette localité, incitant certaines familles déplacées à revenir, a indiqué l'OCHA. Depuis novembre 2021, la rébellion du M23 s'est emparé de vastes pans de territoire dans l'est de la RDC, riche en ressources naturelles et déchiré depuis 30 ans par des conflits. La figure historique de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen, est décédé ce mardi 7 janvier 2025 à l'âge de 96 ans, annonce un communiqué de la famille. Son état de santé s'était dégradé depuis plusieurs années. Il est décédé dans les Hauts-de-Seine, à Garches, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. En 2011, il a été remplacé par sa fille Marine Le Pen à la tête du Front National. En 2015, il est exclu de son propre parti après ses prises de position sur le régime de Vichy et sur la Shoah. Jean-Marie Le Pen, né en 1928 à la Trinité-sur-Mer, a pu fédérer dans les années 60 et 70 l'extrême droite qui était morcelée. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Edwige Tiendrebeugo. À très vite pour d'autres informations sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.